Est-ce que vous avez eu votre vache qui rit, vous, devant? Ok, parfait, parfait. Vous voulez bien tourner, ouvrir votre Bible dans... Ce sera pas au pif, comme on dit. Matthieu, chapitre 16. Nous sommes encore au début de l'année civile de 2015. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons déterminer dans notre cœur. Dans Matthieu chapitre 16, alors c'est un passage que vous connaissez très certainement, mais vous savez ce qui compte dans une prédication, c'est pas de dire aux gens des choses nouvelles, c'est de dire ce que Dieu veut qu'ils entendent. Et cela, comme je l'ai compris dès le début de mon ministère, ça m'a complètement affranchi de ce que des personnes peuvent penser. Quelquefois, les gens disent « Oh, mais j'ai déjà entendu ce sujet ». Ah, si le Saint-Esprit veut que tu l'entendes, c'est parce qu'il veut faire la différence entre un effet de mémoire et entendre avec les oreilles de son cœur. Et la Bible dit une parole de Dieu, pas un effet de mémoire, mais une parole de Dieu est suffisante pour changer ta vie. Et très souvent, ce que l'on veut, c'est quelque chose qui est intellectuellement nouveau. Non, tu veux quelque chose qui te nourrisse. Et ce qui va te nourrir, c'est la parole que Dieu a pour toi maintenant. C'est-à-dire la manne du ciel, quelque chose qui arrive tout frais du cœur de Dieu. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 16. Il est dit à partir du verset 21, alors je vais lire dans, je crois que j'ai dû prendre la Bible en français courant ou la top, je ne sais plus. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant, il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort. Et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Tu imagines la foi que Jésus exerce dans le Père pour dire que c'est une chose de dire je vais mourir. Il y a beaucoup de gens, quand ils font face à la mort, que ce soit à cause d'une peine de mort capitale dans certains pays, que ce soit face à la maladie, que ce soit arrivé au bout de sa course sur terre, qui sont capables de dire 100 fois « je vais mourir ». Mais il y en a combien qui sont capables de dire « je continue après avoir été séparé de mon corps ». Et Jésus, dans ce cas-ci, annonce qu'il va ressusciter. Et il dit « je reviendrai à la vie ». Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Ça, c'est une chose que l'on sait avec le Seigneur, c'est que la communication est ouverte et que nous pouvons parler au Seigneur de ce que nous comprenons qu'il nous dit ou des émotions qui nous submergent quand il nous dit quelque chose. Vous savez, les chrétiens, nous ne sommes pas sous le gouvernement du chef de la Corée. Nous sommes sous le gouvernement de Christ notre roi et nous devons lui parler. Et rien de ce que nous avons à lui dire n'est interdit. C'est pas forcément intelligent, mais en tout cas, nous avons le droit de le lui dire. Donc Pierre, en entendant ces paroles, en entendant qu'il va souffrir, en entendant qu'il va mourir, mais je pense qu'il n'a pas dû entendre qu'il reviendrait à la vie. Vous savez qu'il y a des personnes qui partent sur les premières paroles de Jésus et qui n'entendent jamais la fin de la phrase. Non, je sais que ça n'est arrivé à personne ici. Ça, j'en suis convaincue. Mais au cas où certains auraient l'habitude de couper la parole des autres, je vais vous dire, si vous coupez fréquemment la conversation, quand vous vous entretenez avec quelqu'un, cela me dit que vous coupez fréquemment la conversation quand Jésus vous parle. Non, 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 écoutez, non, c'est bien. Ça n'a rien à voir pour l'instant avec ce que vous avez trouvé sur votre siège. Mais quand même, la réflexion est bonne, vous l'avouerez. Et donc, Pierre prend à part, pourquoi ? Parce que il a quand même un respect pour Jésus. Donc, il boude ce qu'il a envie de dire à Jésus, mais il ne veut quand même pas, comme diraient les jeunes aujourd'hui, mettre Jésus minable devant tout le monde, parce qu'il aime le Seigneur. Et il le prend à pas, il se met à lui faire des reproches, et dit « Dieu t'en garde, Seigneur !»« Ah non, ça ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Oh, mais non, mais tu sais que la parole de Dieu est bonne. Mais non, mais t'inquiète pas. Écoute, tu n'as certainement pas entendu la fin de la phrase, mais tu sais, je vais revenir à la vie. » Non, ça n'est pas ce qu'il dit. Et puis j'imagine que le ton qu'il emploie sur la phrase qu'il va prononcer n'est pas un ton qui est qui a dans le but de caresser Pierre dans le sens du poil. Ça n'est pas comme un père qui va vers son fils, un grand frère qui va vers son petit frère. Il dit « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » En langage moderne, on dirait « Il s'est fait remonter les bretelles, méthode Jésus. » Alors, il est évident ici que Jésus, eh bien, il n'appelle pas Pierre Satan, mais il est en train de parler à celui qui vient d'influencer ce disciple. Et il remet l'ennemi de son âme, c'est-à-dire l'ennemi de l'âme de Jésus, il le remet à sa place. Ceci dit, il y a des leçons que l'on peut apprendre ici, parce qu'ensuite, Jésus dit à ses disciples, donc on sait que Pierre s'est laissé influencer. Et Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. » Ah ah ! Cela nous dit pourquoi Pierre a accepté de se laisser influencer et de répéter la phrase qu'il avait dite sans même réfléchir. La Bible nous dit que Jésus dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Ce qui veut nous dire aussi que Jésus était capable de marcher avec Dieu parce qu'il portait sa propre croix et qu'il ne pensait pas à lui-même. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Quand il est dit, dans ma version, « Tu es un obstacle sur ma route », verset suivant, eh bien, une autre version dit « Tu es en train de me tendre un piège ». Une autre version dit « Tu es pour moi une occasion de chute ». « Tu es pour moi un scandale ». Une autre version dit « Tu es pour moi une offense ». Alors on pourrait dire « Mais comment se fait-il qu'il y ait différentes versions qui emploient différents mots pour un même mot ?» Eh bien parce que ce mot « scandalon » en grec veut dire « là » et tous ces mots veut dire « occasion de chute », veut dire « piège », veut dire « offense » et veut dire « oui ». Chute, qu'est-ce que vous avez ici? Tu mets en scandale, voilà. Alors, on peut vite comprendre, en grec, c'est scandalon. Jésus est en train de dire à Pierre, tu t'es fait le colporteur de la pensée du diable, et il nous dit des choses intéressantes que l'on peut apprendre. Il nous dit, tu t'es fait le porte-parole de mon ennemi. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas comme Dieu. Tu as juste accepté des pensées sans même les filtrer. Cela veut nous dire que quand nous prononçons des paroles qui vont offenser, je n'ai pas dit dans l'intention d'offenser, nuance, j'ai dit qui sont offensantes, eh bien ce sont des paroles qui ne viennent pas de Dieu, qui ne reflètent pas la pensée de Dieu. Également, on peut apprendre, eh bien oui, les intentions de Pierre, eh bien elles étaient bonnes. Pourtant, elles étaient offensantes. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela nous dit que l'on peut offenser des gens avec l'intention de simplement communiquer avec eux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Parce que très souvent, si nous avons été offensés par quelqu'un, nous taxons cette personne de mauvaises intentions et nous prêtons à cette personne des sentiments qu'elle n'a peut-être pas eus. Ici, il est dit, moi je me demande combien de fois ai-je offensé quelqu'un sans même m'en rendre compte, parce que ça n'était pas dans mon cœur de le faire. Combien de fois avez-vous offensé quelqu'un et puis cette personne ne vous parle plus, vous fuit, pire, va raconter des rumeurs sur vous, alors que vous vous demandez, vous tombez du ciel, vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, c'est peut-être sa ménopause. Peut-être que son patron vient de lui dire que la prime du mois de, je ne sais pas, juin, sera supprimée et il l'a mal pris. Combien de fois n'avons-nous pas offensé quelqu'un alors que nous n'avions jamais l'intention de le faire? Et je dois dire, il y a très peu d'offenses qui sont intentionnelles, mes amis. Très peu d'offenses. Très peu d'offenses. Et puis, il y a une troisième chose que nous pouvons apprendre dans cette ambiance particulièrement calme, c'est que malgré, écoutez bien, le troisième point, malgré les paroles offensantes de Pierre, Jésus ne s'est pas laissé offenser. Ah ! Ah ! L'occasion était là. L'occasion était là. Mais cela nous dit que quand une parole que nous jugeons offensante, que nous jugeons comme quelque chose qui pourrait nous faire tomber, et je voudrais bien savoir tomber de quoi ? Tomber d'où ? Si tu es assis en Christ à la droite du Père, parce que tu es né de nouveau, tu ne perds jamais cette position. Vrai ? Jésus n'est jamais tombé de son trône, Dieu n'est jamais tombé de son trône, et toi tu ne peux pas perdre la position de chrétien né de nouveau assis à la droite de Dieu. Donc, quand il est parlé d'occasion de chute, eh bien c'est dans l'expérience de ta vie chrétienne, c'est-à-dire, eh bien tu auras moins de foi pour exercer ton autorité. Tu auras plus de doutes quand il s'agira de prier pour tes enfants peut-être. Tu auras moins de patience pour résister à une tentation. C'est de ce niveau, ce genre de chute dont il est question. Ça n'est pas d'une position, c'est de la réalité de ta vie en Christ, c'est-à-dire le côté pratique de ta vie en Christ. Mais remarquez que Jésus a entendu les paroles de Pierre directement influencées par le diable, des pensées qui ne sont même pas humaines dans ces cas-là, qui sont des pensées qui viennent du diable. Mais le Seigneur nous dit que si Pierre avait eu la pensée de Dieu sur le sujet, il n'aurait jamais répété ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. De deux, les intentions de Pierre n'étaient pas mauvaises. Peut-être que nous voulons, avant de nous en prendre à quelqu'un, avant de vouloir à cette personne, il y a des gens qui ne se sont jamais remis d'offense. Il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils ont nourri des offenses vis-à-vis d'une personne qui n'avait jamais eu l'intention de les faire. Et puis ensuite, il nous est dit que Jésus, eh bien, a vu cette belle opportunité de s'approprier ses paroles, de méditer dessus, et il ne l'a pas fait. Il a laissé l'offense passer à côté de lui. C'est-à-dire, il l'a vu venir, il l'a entendu, et il lui a dit, passe ton chemin. Et juste pour nous le rappeler à tous, Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Alors, le sujet des offenses est à prendre très, 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 très au sérieux. Parce que c'est un piège mortel qui peut faire dévier les gens de leur course. Moi, je peux constater depuis toutes ces années où je suis pasteur que plus de gens ont quitté l'église locale à cause des offenses que guidés par le Saint-Esprit. Plus de gens ont perdu des amis à cause des offenses que parce qu'ils étaient justes. Plus de gens ont quitté leur travail uniquement à cause des offenses que parce que le temps de partir était là. Et vous savez, l'Église de Jésus-Christ ne doit pas faire preuve d'une telle sensibilité. Il nous est dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des causes de chute. » Il est inévitable qu'il n'y ait pas d'offense. C'est-à-dire, si tu es marié depuis plus de 10 minutes, tu dois savoir que ce verset est vrai. Si tu as été à l'école, dès les premiers jours de l'école, tu sais qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de piège. Parce que c'est ça. La définition du mot offense, c'est piège, c'est traquenard. C'est un traquenard dans le but de te faire tomber, dans le but de te faire perdre ton assurance quand tu pries, dans le but de te faire douter de l'autorité que tu as quand tu dois commander au diable de se taire, dans le but de te faire douter quand vient ton tour de prier pour un malade. Le but de l'offense, c'est d'être un obstacle, parce que c'est cela la définition. C'est un obstacle, mais pas un obstacle dans le but de te faire juste dévier, te faire dévier de ton chemin, dans le but de te faire tomber. Et tu sais, le diable sait exactement ce qui peut te faire tomber, toi. Il sait exactement ce qu'il doit te dire. Il sait exactement sur quel bouton appuyer pour que tu tombes, pour que tu sortes de tes gonds et en veuilles à telle ou telle personne, en veuilles à ton mari, à ton épouse, à ton employeur, à ton pasteur, à l'instituteur de tes enfants. Il y a des instituteurs à cause de l'offense, ils se sont fait poignarder. Et la Bible dit, si tu es sur terre, il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il est impossible qu'il n'y en ait pas. D'abord parce que il y a une influence démoniaque sur cette terre-là. Et puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas spirituels. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la pensée de Dieu. Et la Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Celui qui a la pensée de Dieu sait ce qu'il peut répéter ou pas, ce qu'il peut dire à quelqu'un ou pas. Et même s'il disait quelque chose à quelqu'un alors qu'il n'a pas l'intention d'offenser, celui qui a l'occasion de tomber devrait dire non, je vais laisser passer cette offense parce que c'est un piège et je ne tomberai pas dedans. Alors il existe plusieurs formes de pièges. Est-ce que je peux en avoir un ici, Mika? Super, Mika, je peux lui demander, fais-moi cela. Et 10 minutes après, il m'envoie un texto, il dit, c'est fait, pasteur. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez trouvé sur votre siège ce que vous avez trouvé, peut-être. Est-ce que quelqu'un a fait le lien entre ce piège à souris et est-ce que vous avez? Alors, une offense. Vous voyez cette tige-là, cette tige qui est là, à vrai dire, le clapet est relevé vers le haut et la tige retient le clapet. Et quand, on voit le bout de fromage là, quand le fromage est mis dans le piège, eh bien la souris va venir, va actionner la tige qui va libérer je ne sais pas comment ça s'appelle, le clapet ou autre, et le clapet va s'abattre sur la nuque de la souris. Et après, on entend tac, 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 tac. Tu sais, une offense n'est pas là dans le but de te juste donner de mauvaises pensées. Le but d'une offense, c'est de t'arrêter dans ta course. C'est que tu n'arrives jamais à ta destinée. C'est que ces finances pour lesquelles tu es en train de croire, eh bien, n'arrivent jamais jusqu'à toi. C'est pour que tu perdes ton assurance dans la prière. Mais regardez, est-ce que vous trouvez que cette souris-là est en bonne condition? Encore une fois, ici, tout le monde a un fromage. Sur terre, tout le monde a un fromage. Tout le monde a l'occasion de s'offenser. Alors, je vais vous lire dans Matthieu, chapitre 11, et garde cela, simplement les gens vont juste écouter. Dans Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6, « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. » Et vous savez, les théologiens sont d'accord pour dire que Jean, qui était en prison, avait été offensé par Jésus. Ici, le mot « heureux » est aussi traduit dans d'autres versions par « béni ».« Béni celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. »« Béni celui pour qui je ne serai pas une offense. » Ce qui veut dire « en Christ, tu es béni, point barre. » C'est ta position en Christ, ton union avec Christ qui fait que tu es béni. Et rien ne peut changer la vie de Dieu. Rien ne peut changer la bénédiction sur ta vie. En revanche, tout ce que l'on a de Dieu se reçoit par la foi. Et si il nous est dit que l'offense a la puissance de stopper la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Moi, j'ai une question à te poser. Qui parmi nous peut se passer de la bénédiction de Dieu? Moi, je ne peux pas. Vous savez, c'est simple. Tout à l'heure, je conduisais pour arriver au culte. Et puis, je suis partie de la maison avec la réserve de carburant allumée. Et je me dis, oh là 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 là, je me souviens effectivement que quand je suis arrivée à la maison avec le véhicule avant, je me souviens que déjà c'était dans le rouge, et maintenant j'ai tout ce chemin à faire. Et j'ai dit, Seigneur, eh bien tu bénis, tu fais en sorte que j'arrive jusqu'à la station essence que j'ai en tête. Et pendant ce tout, il y avait ce voyant extrêmement, c'est étonnant, comme un voyant qui s'allume devient plus brillant que tout le reste. Mais tu sais, sans faire preuve de folie, je sais que je suis béni. Je le sais. Je sais aussi qu'à cause de la bénédiction qui est mienne, le Seigneur va faire en sorte que mon véhicule arrive jusqu'à la station essence, même s'il doit multiplier par 30 la dernière goutte de carburant dans le réservoir. Ben oui, mais la Bible nous dit juste quelque chose comme ça. Et après, quand j'ai ajouté de l'essence, donc j'ai mis de l'essence dans le réservoir, et j'ai dit, Seigneur, je me demande combien de fois tu m'as empêché de tomber en panne. Je me demande combien de fois tu as fait en sorte que je sois préservé d'un accident. Je me demande combien de fois j'ai évité la maladie. Je me demande combien de fois j'ai évité de mauvaises rencontres. Je me demande à cause de quoi ? À cause de la bénédiction. Mais la bénédiction, elle se reçoit par la foi. Quelqu'un qui est offensé, c'est quelqu'un qui risque de voir la bénédiction qui est sienne. C'est pas comme si la bénédiction partait. Non, la bénédiction est encore à lui, mais elle ne peut pas se manifester à cause de l'offense. Waouh, franchement, ça ne vaut pas la peine. Et tu sais, le mieux, c'est que très souvent, la personne qui t'a offensé, d'abord, si elle ne sait pas qu'elle t'a offensé, je vais te dire, elle continue sa vie comme si de rien n'était. Elle continue vers sa destinée et toi, tu es arrêté dans la tienne, voire dans ta santé. Tout ça pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et si la personne sait qu'elle t'a offensé et qu'elle l'a fait intentionnellement, alors dans ces cas-là, ça devient son problème. Parce que tu ne peux pas choisir à la place des autres ce qu'ils doivent penser ou faire. En revanche, tu es responsable de choisir ce que toi tu vas faire face à ce piège qui t'a été tendu. Est-ce que tu vas tomber dedans ou est-ce que tu vas dire, tu sais, par la puissance de Dieu, je vais marcher outre. Donc on voit que l'offense a la puissance d'empêcher la bénédiction de Dieu de se manifester dans ta vie. Dans Marc chapitre 11, verset 25, il est dit « Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Alors, c'est peut-être pour ça que des gens ne prient que debout. Tu sais, l'offense amène la conscience du péché. Quand quelqu'un choisit de saisir l'offense qui s'est présentée à lui, à partir de ce moment-là, cette personne a la conscience du péché. Dès qu'on va voir la personne qui nous a soi-disant offensés, immédiatement, la conscience du péché va ressurgir. Et que se passe-t-il ? Peut-être qu'on ne parle plus à la personne, peut-être qu'on parle mal de la personne. Mais en tout cas, cette conscience du péché va nous amener à changer de comportement. Et la Bible dit que nous devrions pardonner. Les conséquences, la Bible nous dit aussi que par ce verset-là, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, alors il est difficile de vivre sans la culpabilité. Vous savez, à la croix, nous avons déjà été pardonnés. Tu réalises qu'à la croix, tous tes péchés ont été pardonnés. Facture, tu ne dois rien à Dieu. Dieu ne te demandera jamais de payer pour un seul de tes péchés. Même futur, tu peux dire, « Youhou, on peut y aller !» Non, tu as tort. Parce que le péché te fait du mal à toi. Mais s'il est dit que si nous ne pardonnons pas à quelqu'un, alors il sera difficile de garder la conscience du pardon que nous avons reçu. Et si quelqu'un n'a pas la conscience qu'il est pardonné par Dieu, même si c'est un fait, alors il va vivre dans la culpabilité. Et quelqu'un qui vit dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui prend de mauvaises décisions dans la vie. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu sois libre. Tu sais que c'est difficile d'entendre la voix de Dieu sous le joug de la culpabilité. Alors qu'on est pardonné, tout ce qu'il faut, c'est libérer la personne qui, soi-disant, nous a offensés. Donc, un, les offenses se présentent pour plusieurs raisons. Elles ont le pouvoir de stopper la puissance de la manifestation de la bénédiction de Dieu. Elles interrompent notre communion entre nous et Dieu. Pas Dieu et nous, nous et Dieu et nous et les autres. Et puis dans Marc chapitre 4, versets 14 à 17, il est dit « Le semeur sème la parole, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Mais à peine l'ont-ils entendu que le Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont aucune racine en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps, sitôt que survient la détresse ou la persécution. À cause de la parole, c'est pour eux une occasion de scandalon. » Donc ici, on voit que l'offense a la capacité de voler la parole de Dieu qui a été mise en nous. Ben oui, mais la parole de Dieu, quand elle est semée dans ton cœur, c'est cette parole qui te met les désirs de Dieu dans le cœur. C'est cette parole qui te met la pensée de Dieu dans le cœur. Et sans les désirs de Dieu, sans la pensée de Dieu, quelles sont les décisions que nous prenons dans la vie ? Le diable ne peut pas voler la parole de Dieu qui est dans le cœur de quelqu'un qui refuse de se saisir d'une offense. Ah, l'occasion vient, ça c'est certain. L'occasion va venir, l'occasion de se vexer, l'occasion d'en vouloir, l'occasion de saisir ses paroles et puis d'interrompre la communion avec quelqu'un. Mais la Bible dit qu'à vrai dire, la personne qui perd le plus dans l'offense, c'est celle qui saisit l'offense, même pas celle qui fait l'offense. Surtout si cette personne-là ne sait pas qu'elle a offensé quelqu'un. Le plus grand perdant, c'est celui qui va garder cette offense, qui va méditer sur ce qu'il a, sur ce qu'il lui a dit. Évidemment qu'à chaque fois qu'il va méditer sur ce qu'il a entendu, ça va produire les mêmes émotions. Et sur la base de ces mêmes émotions, la personne va prendre des décisions. Tu sais, quelquefois, les gens méditent sur des offenses, méditent sur un tort qui leur a été fait, parce qu'ils ont l'impression qu'en méditant sur l'offense et en parlant à la personne, vous avez vu des gens qui parlent dans la rue, « Non, mais je vais te dire, ils sont seuls, hein. Moi, je vais te dire, moi, ça va être comme ça, et puis moi, je vais te dire comme ça. » Et ils pensent qu'ils sont en train de ruiner la vie de l'autre personne. Ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans un traquenard. C'est eux les piégés. L'offense, le piège était pour la personne qui reçoit l'offense. Alors, dans Marc chapitre 6, versets 2 à 3, il est dit « Jésus partit de là, il vint dans sa patrie et ses disciples le suivent. » Il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « Mais d'où lui vient-il ? D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de scandale. C'est-à-dire, des gens qui ont entendu la parole de Dieu se sont laissés offenser et n'ont pas pu recevoir la parole que Jésus était en train de leur donner. Une des choses, tu sais, ne reçois jamais une offense de la part de ton pasteur. Ah, si ton pasteur t'offense intentionnellement, change d'église. Mais franchement, je ne connais pas beaucoup de pasteurs qui offensent, qui tendent un piège dans le but de faire tomber celui à qui ils s'adressent. Si c'est le cas, il faut qu'il sorte du ministère. Là, il est dépassé par la tâche. Là. Mais en tout cas, ici, les pharisiens se sont laissés offenser par Jésus parce que, au lieu d'écouter les paroles qu'il disait, s'ils avaient écouté les paroles qu'il disait et qu'ils les avaient reçues, qu'ils les avaient étudiées, ils auraient compris que les paroles que Jésus disait n'étaient que le fait de répéter ce que le Père disait. Et ils auraient compris qui avait envoyé Jésus. Mais non, 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 ils se sont arrêtés au côté naturel. Non, mais attends, nous, on a joué aux osselets avec lui, aux billes dans la cour d'école. On se rappelle quand sa mère nous faisait des pâtes, hein, trop cuites, mais bon. Quand elle nous faisait des pâtes et que Jésus disait, venez, venez, maman a fait des pâtes. Ben, c'est comme, quand même ça la réalité de sa vie, non? Ou venez, 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 maman nous a fait des kebabs. À peu près elle. Et tous ces petits copains qui ont grandi avec Jésus ont préféré s'attacher au côté humain plutôt que d'écouter les paroles qu'il disait. Tu sais que quelquefois on peut être offensé par un plus jeune que nous qui prêche, qui parle, qui a une promotion. On peut se laisser offenser par cela. Mais le piégé, c'est qui ? Qui est celui qui a mordu dans le fromage ? Montrez-moi votre fromage, là. Tu sais que c'est une chose qu'on te l'ait donnée, c'est une autre que tu le manges. Personne ne va oser le manger tout à l'heure. Vous savez, dans la parole de Dieu, on trouve beaucoup d'exemples de personnes qui ont été offensées. Peut-être que vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 18, il nous est dit que le roi Saül a été offensé par David. Mais le pire, il pensait que David voulait sa place. Mais c'était imaginaire, c'était faux. Quand tu crois que quelqu'un veut ta place au travail, quand tu crois que quelqu'un veut ta place à l'église, quand tu crois que quelqu'un veut ta place dans le loisir auquel tu te donnes tous les week-ends, C'était purement imaginaire. Tu sais que ce roi-là a perdu son trône uniquement sur une imagination mal placée. On voit également que le roi David, dans 2 Samuel chapitre 6, alors lui c'est encore autre chose parce que l'arche de l'Alliance devait être déplacée. Et parce que là où était placée l'arche de l'Alliance qui contenait la présence de Dieu, là était la bénédiction. Est-ce que j'ai des personnes devant moi qui sont cette arche de l'Alliance? Est-ce que j'ai des personnes devant moi qui ont la présence de Dieu en elles? Et là où était l'arche de l'Alliance, était la bénédiction. Et on ferme la parenthèse à cause de l'enthousiasme général qui est débordant. Mais il a fallu déplacer, donc David a voulu récupérer l'arche de l'Alliance et elle a été posée sur un chariot tiré par des bœufs. Les instructions étaient bien précises, elles auraient dû être portées par les sacrificateurs sur les épaules. Et donc à un moment, eh bien, à cause de l'état de la route, le chariot a commencé à se pencher et Uzza a étendu la main pour retenir l'Alliance parce que tout le monde sait que Dieu n'est pas capable de prendre soin de lui-même. Juste une petite aide humaine. Clac. Laisse-moi t'aider, Seigneur. Bon, bref, tu ne peux pas toucher une telle puissance sous l'Ancien Testament et rester en vie et il est mort. Et la Bible nous dit que David s'est irrité contre Dieu et il s'est mis en colère. David s'est offensé contre Dieu. Ça t'est déjà arrivé de t'offenser à cause de quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre? Ça, c'est la chose la plus stupide qui puisse t'arriver. C'est une chose déjà de t'offenser, de tomber dans le piège de l'offense de quelque chose qui t'est fait, mais t'offenser pour quelque chose qui est fait à quelqu'un d'autre, la manière dont on traite ta copine, la manière dont on a traité ton père, dont on a traité ton enfant, ça, c'est encore pire. Et ici, c'est ce qui est arrivé à David. Un autre exemple, on sait que sa femme s'est offensée parce qu'elle a vu David danser comme un homme heureux, passionné de Dieu. Et sa femme s'est offensée parce qu'il n'a pas gardé son statut extérieur de roi, mais qu'il a dansé comme un homme passionné de Dieu. Ça t'est déjà arrivé d'être offensé parce que tu vois quelqu'un adorer Dieu d'une certaine manière? Parce que tu vois quelqu'un servir Dieu avec passion? Tu vois quelqu'un, tu entends quelqu'un prier avec passion? Vous savez, tous ces exemples sont dans la Bible et la Bible dit que tous ces exemples nous ont été donnés pour nous servir d'exemple à nous aujourd'hui. On sait que Moïse, on sait que personne n'a été épargné. C'est-à-dire que ce ne sont pas les tout nouveaux en Christ qui risquent d'être offensés. Ce sont même des personnes qui ont marché avec Dieu depuis des années. Et ici, dans Nombre chapitre 20, il nous est dit que Moïse s'est offensé contre le peuple qui s'était rebellé contre lui. Et au lieu de parler au rocher comme il lui avait été commandé de le faire, il a frappé 2 fois le rocher. Résultat, il a été empêché par la promesse réalisée, d'entrer en terre promise. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de parler au rocher était un type de ce que Dieu allait faire en Christ. Et Moïse a carrément saccagé ce qui annonçait la mort de Christ uniquement à cause de l'offense. Combien de personnes n'arrivent jamais à voir toutes les promesses de leur vie accomplies uniquement sur la base d'un fromage? C'est rien. Et ils ont la nuque prise dans ce piège. Et ce sont eux les perdants. Tu sais, Dieu a un plan pour ta vie qui va bien au-delà de ce que tu peux jamais imaginer. Si tu marches avec Dieu depuis quelques mois, quelques semaines même, j'imagine que tu commences à comprendre que la vie avec Dieu est une véritable aventure. Si ta vie avec Dieu n'est plus une aventure alors que tu vis avec lui depuis des mois, pose-toi des questions sur ce qui t'a arrêté. pose-toi des questions. Quelle est la dernière offense de laquelle je me suis saisie? Pourquoi suis-je enfermée dans ce piège? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vivre cette vie exaltante avec le Seigneur? Parce que la vie avec Jésus n'est pas autre qu'exaltante. Je n'ai pas dit qu'elle est facile, mais j'ai dit en tout cas qu'elle est exaltante. Quand les promesses de Dieu sont vivantes dans ton cœur, ma question, si tu n'avances plus avec Dieu, ne dis pas que c'est la faute de l'église locale, ne dis pas que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, tu es celui qui laisse aller les offenses ou tu es celui qui les retient. La main t'appartient. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Moïse n'est jamais rentré dans la terre promise alors que Moïse avait fait tous les efforts nécessaires pour conduire le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il a amené les autres là où il aurait dû y aller sans lui-même pouvoir y entrer. Combien de gens n'ont pas amené d'autres vers leur guérison sans jamais pouvoir y entrer eux-mêmes? Et le problème n'était pas que Dieu a changé d'avis, a des préférés, que la puissance de Dieu n'est que pour certains et pas pour tous. La Bible dit que Jésus a guéri tous les malades qui se sont présentés à eux. Mais il est bon quelquefois de se poser des questions. Y aurait-il une offense? Y aurait-il un piège dans lequel je suis tombé? Et le but n'est pas une introspection qui va durer une éternité. Le but est une prise de conscience rapide et une décision immédiate. Je sors de ce piège-là. Non, je sais que personne n'est concerné. Dès le début du message, je sais que les fromages, j'aurais dû tous les laisser à la réception. Peut-être qu'on peut, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la réception d'un hôtel. Peut-être qu'on devrait tous passer devant quand on sort. De toute façon, on passe devant et tous laisser une vache qui rit. Et on va laisser la dernière personne qui va sortir d'ici expliquer pourquoi un fromage. Vous rappelez de Naaman, le lépreux, dans 2 Rois chapitre 5. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et il se trouve que Naaman était atteint de lèpre, qui est une maladie incurable à l'époque, atteint de lèpre. Et c'est une maladie qui te bannit de la société. Ce n'est pas simplement une maladie qui fait mal parce qu'elle attaque tes terminaisons nerveuses et que tu vois tes bouts de doigts, tes extrémités de doigts et de pieds, de ton nez tomber, avec l'odeur répugnante que cela entraîne. Avec cette maladie, tu étais banni de la société. Terminé ta vie de famille, terminé ton travail, terminé ta destinée. Tu vas dans un cimetière vivant. Et ce roi-là était atteint de cette lèpre. Et puis il se trouve que sa servante, une jeune fille qui faisait partie du peuple hébreu, qui avait été amenée en captivité et qui était là au service de ce chef de l'armée, eh bien, il lui dit, mais tu sais, moi je connais un prophète en Israël. Si jamais tu vas le voir, il te guérira. Oh, la bonne nouvelle! Vous imaginez l'espoir qui revient, parce que personne ne pouvait guérir cet homme-là en Syrie. Et alors, il a l'autorisation nécessaire pour se déplacer. Le roi lui dit, vas-y, va en Israël. Et puis, il va. Et il se présente à la porte du prophète. Et ça me fait rire. Je ne comprends pas tout, mais franchement, je trouve ça mais marrant comme tout. Et le prophète, mais il ne se déplace même pas. Il ne se déplace pas. Il est chez lui et il envoie son messager, va dire à Naaman qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et il n'a même pas vu le prophète. Il n'a même pas vu le chef de l'armée. Évidemment, Naaman fait ce que tous ici nous aurions fait. Parce que Naaman a une grande réputation. Je veux dire, c'est pas le soldat qui vient le voir. C'est un chef de l'armée de Syrie qui se déplace. C'est comme si le ministre de la Défense se déplace en Israël. Il va voir un prophète et le prophète du fauteuil de son salon crie à son messager et va lui dire qu'il aille se plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Et évidemment, Naaman le prend très mal. Et il s'offense. Oui, mais quelqu'un qui s'offense quand il est malade a des chances de jamais être guéri. Et là, ça vaut peut-être le coup de laisser partir le fromage. Naaman retourne chez lui et puis il est encore là. Ouais, il n'est même pas venu me saluer, il aurait quand même pu se déplacer, ne sait-il pas qui je suis? Est-ce que tu t'offenses quelquefois parce que les gens ne t'honorent pas comme ils devraient? Parce que les gens ne te disent pas bonjour, parce que les gens ne te disent pas au revoir, parce que les gens ne te souhaitent pas ton anniversaire, parce que les gens ne te souhaitent pas la fête des pères, parce que les gens ne t'appellent pas à Noël, parce que les gens ne t'appellent pas hier. Ne savent-ils pas qui je suis? Ne pensent-ils pas à moi? Et puis il y a cette petite servante qui lui a dit, tu sais, on a toujours besoin d'un petit poids chez soi, hein, tout le monde le sait. Et cette petite servante-là, elle lui dit, mais tu sais, et ses serviteurs ont dit la même chose d'ailleurs, ils ont dit, mais dis-moi, si il t'avait dit de faire quelque chose de difficile, eh bien tu ne l'aurais pas fait parce que tu te serais plaint que c'était difficile. Là, tout ce qu'il te demande, c'est va te plonger cette fois dans le Jourdain. Et là, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout et qui comprend tout et qui a autorité sur tout, il se met à jouer le petit malin. Dis-moi, il n'y a pas assez de fleuves en Syrie pour qu'il me demande d'aller en Israël dans un Jourdain. Et la servante lui dit, mais fais simplement ce qu'il t'a dit. Là, il s'était offensé une deuxième fois. Un, parce que l'autre ne l'avait pas salué. Et de deux, parce qu'en plus, il lui demandait d'aller dans un fleuve qui n'était pas chez lui. Ah, quelle est la dernière fois où Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait parce que tu t'es offensé? Tu sais, cet homme aurait pu perdre la bénédiction de la guérison s'il avait gardé cette offense. On sait que les pharisiens ont été, plein de pharisiens n'ont pas pu rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont été offensés par les paroles de Jésus. On sait que la multitude s'est offensée quand Jésus a dit, eh bien, mangez ma chair, buvez mon sang. Pourquoi? Parce qu'il disait, cette parole est dure, qui l'écoutait? Qui peut l'écouter? Tu sais pourquoi il y a plein de gens qui vont dans une église où la parole de Dieu n'est pas prêchée? Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, quand les gens sont encouragés à pratiquer la parole de Dieu, alors il y en a qui s'offensent. Résultat, dans plein d'églises ici sur cette planète, on ne parle plus du nom de Jésus, de peur d'offenser un bouddhiste qui rentrerait. On ne parle plus du sang de Jésus, de peur d'offenser un non-croyant qui arriverait au culte. On ne parle plus en langue, au cas où on offenserait une autorité qui viendrait nous rendre visite. La parole de Dieu offense. Si tu lis ta Bible, à un moment, tu risques d'être offensé par ce que Dieu te demande de faire. Ma question est, que vas-tu faire? Vas-tu garder l'offense? Vas-tu rebeller? Vas-tu mettre de côté ou de dire, Seigneur, c'est toi ma sagesse? Et si les multitudes étaient offensées à cause de la parole que Dieu lui avait dite. Ma question est, est-ce que Dieu est libre de te dire tout ce qu'il a à cœur? Si tu t'offenses à la lecture de la parole écrite, il y a de grandes chances que Dieu aura des difficultés à te dire, à te parler dans ton cœur, de peur que la dimension de l'offense n'augmente. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui va nous pousser à mal faire. Jamais, jamais, jamais. J'ai une question. Comprends-tu que l'offense, c'est sérieux? Très souvent, on traite à la légère. « Oh, mais je me suis vexée. » Ma question est, as-tu autant d'assurance pour prier maintenant? Quand tu vois telle ou telle personne, quand tu retrouves ce collègue de travail, est-ce que tu es capable de lui serrer la main? Est-ce que tu es capable de lui parler comme tu faisais auparavant? Ou est-ce que tu fais un détour parce que tu ne peux plus le voir? Ma question est, quel est celui qui est pris dans le filet de l'offense? Qui est celui qui a la nuque dans le piège? Qui est celui qui a mordu dans le fromage? Qui est celui qui n'a plus la joie de son salut? Qui est celui qui n'arrive plus à maîtriser la confusion de ses pensées? Qui est celui qui n'a plus entendu la voix de Dieu depuis des années? C'est pas normal, ça. Je sais qu'il est difficile de discerner la voix de Dieu toutes les 10 minutes, mais quand même, tous les jours, Dieu nous parle. L'offense. Pour 2015, Dieu a des tas de bénédictions pour nous qui sont énormes. Vous savez que nous allons nous diriger vers l'achat d'un lieu de culte. Merci pour ces 4 personnes enthousiasmées. Il y a un partenaire qui a dit « Je veux vous aider ». Magnifique l'enthousiasme qu'il y a ici, hein, c'est extraordinaire. Donc, nous allons nous diriger vers l'achat d'un bâtiment. Ah ! Enfin, l'église dynamique qui réagit. Mais ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous permettre de garder des offenses. Il y en a pour qui Dieu a prévu des promotions cette année. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des offenses. Il y en a qui auront besoin de la guérison. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des offenses. Alors laisse le fromage. Laisse l'offense passer devant toi. Laisse-la passer. Ça ne vaut pas la peine. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es béni. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Laisse Dieu. Tu dis, oui, mais quand même, il faut que... C'est injuste ce qui m'est arrivé. Laisse le juste juge faire la part des choses. Toi, occupe-toi de ta marche avec Dieu et laisse Dieu faire son boulot. Amen. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas Dieu. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus. Alors, nous allons prendre le pain et le vin maintenant. Donc, c'est une bonne occasion pour nous rappeler que nous avons été pardonnés de nos péchés et que nous sommes donc libres de remettre aux autres leurs dettes envers nous. Nous sommes libres de pardonner. Et c'est un grand privilège de le faire.